Chronique des années égarées.
Témoin privilégié d'une époque à la fois riche et douloureuse, Serge Moscovici nous conduit sur les chemins du souvenir de son enfance roumaine à Paris. Il est le guide de cette histoire qui est un peu la nôtre.
Serge Moscovici, bonjour.
Bonjour.
Alors nous avons, lors de notre dernier épisode, tourné une page, celle de la vie avec Gusta, celle de l'enfance aussi également,
oui.
Vous nous l'avez dit. Nous en ouvrons une autre aujourd'hui avec Tantiana, qui habite donc Galazzi. Qui est Tantiana? Comment est-elle? Quelles sont ses relations avec vous, avec votre père?
Tantiana était la sœur de mon père. De tous les enfants que ma grand-mère a eus, c'est les deux qui ont survécu, donc mon père et Tantiana. Vous savez, dans les familles juives, dans le temps, l'éducation des filles était vraiment beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus détaillée, plus poussée que l'éducation des garçons. Aux garçons, on leur apprenait une chose, c'est de gagner leur vie. Ce n'était pas à cette époque-là, c'était très rare qu'on fasse des études. Donc le garçon, il devait apprendre à gagner sa vie. Mais les filles d'abord avaient plus de temps, et ensuite il fallait les préparer à un beau mariage. Donc elles devaient avoir une culture et un savoir-faire social beaucoup plus raffiné, je dirais, que les garçons. Et c'est curieux parce que mon grand-père, qui était quand même un homme très religieux, a mis sa fille dans une sorte de pensionnat pour jeunes filles où on apprenait le français, le grec, etc. Et donc, c'était une femme à la fois plus raffinée, je puis dire, que mon père, et j'ajouterais même plus intelligente.
C'est une femme qui a compté énormément dans votre vie.
Mais je pense, oui, elle a été vraiment, comme je disais, ma mère et mon père, parce que du jour où je suis arrivé chez elle, elle n'en voulait pas tellement. Elle avait déjà sa vie, son enfance, son mari, etc. Mais du jour où je suis rentré chez elle, j'ai vécu avec elle jusqu'à ce que je quitte la Roumanie, donc jusqu'à l'âge de 22 ans. Donc c'est la personne avec qui j'ai vécu le plus longtemps. Et quand je dis vécu le plus longtemps, j'ai vécu quotidiennement avec elle. Et donc j'ai traversé, si vous voulez, la guerre, l'après-guerre. Et ça a été la femme qui, au moment difficile et au moment de mes incertitudes, et puis moi j'étais assez désordonné, je le suis toujours quand même, c'est elle qui intervenait pour me rappeler les choses essentielles.
Quand vous vous installez chez elle, dans un premier temps, votre père et vous en tout cas, vous pensez qu'il ne s'agit que d'une halte provisoire. C'est aussi un peu pour ça qu'elle vous a accepté.
C'est ce que j'ai pensé, moi et elle. Je ne sais pas ce que pensait mon père, parce que mon père était difficile à savoir, à connaître. Mais c'était une halte provisoire pour faire juste pour m'inscrire au lycée. Et donc... On avait des relations relativement froides, si on peut dire, parce que c'était quand même une femme assez distante, une femme assez froide, et du moins au début avec moi. Et après, il se produit quelque chose dans elle par rapport à moi, par rapport à mon père. Et je pensais simplement que je vais faire le lycée. Personne ne pensait que la guerre viendra, que tout ce drame se déroulerait. Et donc, j'ai commencé comme ça ma vie à Galazzi.
Alors, votre tante n'est pas pieuse?
Non, elle n'est pas pieuse. Je veux dire à propos quelque chose de la piété. Je pense que la piété existe uniquement dans une collectivité, dans une communauté. Lorsque les gens commencent à se défaire, à se distancer de communautés, la piété disparaît. C'est peut-être une théorie, mais en même temps, c'est une expérience. Donc, elle vivait à Galazzi, qui était un grand port parmi les Grecs, des populations extrêmement mélangées. Il y avait plus de communautés, disons, étroites,
soudées,
tout ça. Et donc, dans ce sens-là, elle n'était plus pieuse.
Alors vous mettez Bible et rituel de côté, mais pourtant à 13 ans, vous faites votre bar mitzvah.
Ben, je mets Bible et rituel de côté, mais la bar mitzvah était quand même quelque chose, de, je dirais, d'obligatoire. Je ne connais pas de garçon juif qui ne faisait pas sa bar mitzvah. Et elle n'était pas anti-religieuse, si vous voulez.
Mais quel sens cette bar mitzvah avait pour vous à l'époque? Est-ce que ça voulait dire quelque chose?
Mais j'ai toujours été lié, même maintenant, ne serait-ce qu'affectivement, à cet ensemble qu'on peut appeler le judaïsme. Même si je n'ai pas d'explication rationnelle, le lien affectif, le lien personnel, je dirais, avec le judaïsme a toujours existé.
Alors comment ça se passe? Votre père vient, ne vient pas?
Non, il ne vient pas. Donc je passe la bar mitzvah à Galatz chez ma tante, parce que pendant les années où j'ai habité à Galatz, mon père venait de temps en temps et puis il retournait en Bessarabie parce qu'entre-temps, il s'était séparé de sa deuxième femme.
Cette année-là porte également le nom de l'amitié et vous rencontrez Molko.
Oui. Alors, Molko était un juif séfarade. Et il faut savoir que les juifs séfarades étaient très anciens en Roumanie, puisqu'ils sont venus, l'expulsion des juifs d'Espagne. Ils étaient tous beaucoup plus cultivés que le reste des juifs. Et ils étaient une aristocratie. Je raconte une anecdote. Ils avaient le propre cimetière dans lequel on enterrait séparément les séfarades et les ashkénazes. Alors je rencontre Molko, qui était un garçon, disons, qui venait d'une famille beaucoup plus structurée que la mienne, et plus intellectuel que moi. Moi, j'étais un peu mal dégrossi, encore entre ma Bible, mes lycées et tout ça. Et donc, lui, c'était un garçon qui avait une culture. C'est quelqu'un qui a lu. Son père avait une très belle bibliothèque. Nous sommes devenus amis. Et alors, c'est lui qui m'a entrepris à il a voulu changer parce que j'étais encore croyant. Donc... Il trouvait que c'était absurde que ma croyance en Dieu. Il m'a transformé dans ce sens-là. Et puis il avait aussi une sorte de. J'avais un don des maths, ça c'est sûr. Et alors c'est lui qui m'a converti à la religion scientifique. Parce que pour lui, la chose importante était la science et la. Et la contradiction la plus grave pour nous, pour les Juifs, était cette adhérence, si on peut dire, à une tradition, et en même temps le fait que nous étions si présents dans le monde de la science. Mais c'était une amitié qui était une amitié, je ne sais pas comment on peut appeler, spirituelle.
Vous parlez très peu de filles. On a l'impression qu'il essaye de vous changer dans vos convictions, dans votre religion, dans vos idéaux respectifs, mais les filles sont très absentes, étonnant pour des...
Ah, mais les filles sont absentes, non, elles se sont pas...
Alors vous n'avez pas tout dit dans vos mémoires
égarées.
Non,
non, j'en parle parce que je n'ai pas parlé, mais il faut bien se souvenir que le monde des filles et le monde des garçons étaient des mondes très séparés. Et alors, surtout... le monde des filles et des garçons de même religion. Parce que c'était toujours très grave d'avoir une relation avec une jeune fille juive parce que c'était la voie vers le mariage. Mais enfin, si je voulais que je vous raconte ça, je n'ai pas tout raconté dans ce livre. Au fond, les fêtes étaient l'occasion... De rapports et de, disons, de relations avec les filles. Alors que, tandis que les parents étaient à la synagogue, je rencontre d'ailleurs dans mon livre une histoire de Pourim. À ce moment-là, on rencontrait les filles. Mais c'était effectivement... le monde des filles était un monde de la peur pour les garçons.
Alors, dans les rues de Galatie, vous rencontrez véritablement, vous nous le disiez à l'épisode précédent, l'antisémitisme. En Bessarabie, vous connaissiez les persécutions, le mot est peut-être un peu fort. L'un des arguments clés de cet antisémitisme, c'est « oui, mais vous avez tué Jésus-Christ ».
Oui, ça c'est une chose qu'on nous disait tout le temps. Et vous savez, un des arguments forts de l'antisémitisme, c'était ça. Mais un des symptômes les plus forts de l'antisémitisme, c'est l'omniprésence de la parole sur les Juifs. On parlait tout le temps des Juifs. Ça revenait dans la conversation. Vous ouvrez la radio, vous voyez, je veux dire, c'était. Et alors, on se sentait, comment dirais-je, agressé, hein, mentalement agressé. Par cette centralité, finalement, du juif, de la personne du juif, de la caricature du juif dans le discours des gens. Hein. Et puis, on était toujours reniflé d'une certaine manière. Hein, c'est-à-dire, on disait, ah, c'est un juif. Vous voyez, ce n'est pas. La présence de cette discrimination constante avait quand même cet effet de rétractation, de peur, de cette impression que les territoires étaient fermés, que les relations devaient passer par ce filtre d'abord. Les relations n'étaient pas toujours mauvaises, mais souvent. Hein. Et puis, en dernier lieu, cette chose extraordinaire, c'est qu'on considérait. Enfin, je veux dire, si on était normal, on était antisémite.
Mais vous êtes d'ailleurs tellement marqué par ça que vous décidez à cette époque d'écrire un roman après justement une altercation due à l'antisémitisme. Alors c'est un roman qui va être assez court, il me semble qu'il n'y a que deux chapitres, et qu'il y a un lecteur qui s'appelle Isidore Isou.
Je l'ai vu dimanche, d'ailleurs. Alors, donc, un jour, j'ai été agressé de manière... J'allais chez un médecin, j'étais agressé. Et je vais chez ce médecin, qui était un médecin juif, et qui me dit, sur une voix comme ça, un peu triste, il me dit, maintenant, c'est les enfants qui se mettent contre nous. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a tellement bouleversé, ce qu'il m'a dit. Ça m'a rendu très triste. Je suis rentré et je me suis dit, je vais écrire un roman que je l'ai appelé La Mer Rouge. Mais je l'ai dit que la Haggadah a joué un très grand rôle dans ma vie. Et donc, un roman qui serait une sorte de roman historique, du peuple juif, de la persécution. Mais l'idée était de montrer aussi qu'il y a toujours une mer rouge. C'est-à-dire qu'il y a toujours un endroit qui se tourne contre les persécuteurs. Il y a toujours que ces persécutions, si je puis dire, sont destructives pour celui qui les exerce. Et c'est d'ailleurs une conviction très profonde chez moi. Je pense que les persécuteurs des Juifs se sont autodétruits dans la persécution des Juifs. Mais vous pouvez regarder la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, je voulais écrire un roman un peu dans le genre de Zola, Tolstoï. Et le seul lecteur de ce roman, enfin de ces deux chapitres de roman, a été Isidore Isou, parce qu'Isidore Isou était contre les Zola et Tolstoï. Mais Isidore Isou, donc, c'est un garçon que j'ai connu, enfin, maintenant on sait parce qu'il a. Je l'ai connu à Bucarest, les premiers mois, peut-être la première année où je suis arrivé à Bucarest. Et lui, vous savez, à ce moment-là, bon, on devance un peu l'histoire, mais vers les années 37, 38, 39, beaucoup de juifs des petites villes ont essayé d'émigrer vers les grandes et surtout vers le Bucarest. Hein. Et donc, Isou, c'est un garçon comme moi qui venait, lui, de Botoșani, et nous sommes rencontrés à Bucarest et je dirais nous avons passé la guerre avec deux autres garçons ensemble à souffrir mais aussi à lire, à nous cultiver à... et c'est lui disons qui m'a éloigné de Zola et Tolstoï pour je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que il s'intéressait assez tôt au surréalisme. Il s'intéressait assez tôt au surréalisme, et c'est par lui que j'ai lu les auteurs surréalistes pendant la guerre.
Votre cousin, le fils d'Anna, Pouillou,
oui.
Adhère à cette époque au sionisme. Alors, j'ai été extrêmement surprise de voir qu'il existait justement des organisations pour la jeunesse et que visiblement, elles avaient l'air assez actives.
Vous savez, quand j'étais en Israël, dans les années 70-80, j'étais, moi, étonné du fait que les gens ne se rendent plus compte de l'importance du sionisme. Hein. Mais je crois que ça, c'est un trou dans la tête. Mais c'est intéressant, je pense que quelqu'un devrait un jour réfléchir à ça. Le mouvement sioniste a, dans certains sens, organisé toute la vie juive dans la période avant la guerre.
Chronique des années égarées, Serge Moscovici, édition Stock, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy.
Réalisation technique, Jean-Philippe Andlicher.